Eh bien, bienvenue sur le cours de F6KGL et ce soir nous voyons la troisième partie du chapitre 20 et on va continuer ce dont on avait parlé la semaine dernière, c'est-à-dire les résistances et leur montage, mais là on va voir le côté application et on va sortir la calculette et faire des... Voilà, voir les différents montages qu'on peut faire autour du montage fondamental série ou parallèle. Donc on va comment, en fait on va faire comme dans le cours, hein, on va utiliser deux résistances, 80 ohms et 120 ohms, qu'on va monter soit en série, soit en parallèle, et les deux on va les alimenter par une même tension, le 10 volts. D'accord. Donc on suppose, enfin on sent bien qu'on va obtenir évidemment des résultats complètement différents. Quand bien même les valeurs de base sont les mêmes. Et donc on y va à la calculette. Alors on va commencer par le série. Donc une résistance de 80 ohms, une résistance de 20 ohms. Voilà. Ma tension de 10 volts, évidemment, c'est sur l'ensemble de mon réseau. Et la première question, la plus simple, c'est quelle est la résistance équivalente de cet ensemble-là? Ben, c'est l'addition. Donc, l'addition, c'est R1 plus R2. Et si j'avais une troisième résistance, évidemment, j'additionnerais le tout. Donc R1 plus R2, oh, je sors pas ma calculette quand même, 80 plus 20.
T'arrives à faire ça?
Voilà, j'arrive à faire ça de tête. C'est quand même extraordinaire. Et ça me fait 100 ohms. Donc maintenant, répartition de la tension. Donc je prends, évidemment, la répartition de la tension sur R1 et sur R2. On est bien d'accord?
80% et 20%.
Alors, oui. On va commencer déjà par appliquer la formule qu'on a vue la semaine dernière. C'est-à-dire la tension sur R1, c'est égal à la tension totale 10 volts, divisé par la résistance R1, 80, divisé par la résistance totale, 100. Donc ça fait 10 fois 90 divisé par 100, ou 80%, ça me fait 8 volts. Sur R2, bah je reprends le même calcul. Donc mes 10 volts divisé, avoir multiplié par 20 divisé par 100 et ça me fait 2 volts. Vous remarquez quand même que 8 volts plus 2 volts, donc les tensions sur R1 plus la tension sur R2, ça donne ma tension totale. J'en ai pas qui se sont partis, donc la loi des mailles, elle fonctionne là. Et d'autre part, je peux aussi faire le calcul par différence, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je connais la résistance, la tension sur la résistance 1, que je vais appeler UR1, oui, alors juste un truc, quand je mets un petit indice comme ça, c'est que je mesure la tension sur R1. C'est ça que ça veut dire. Ça, c'est l'indice qui veut dire qu'est-ce que je mesure. Soit où est-ce que je mesure ou qu'est-ce que je mesure. Et donc là, je mesure la tension sur R1. Donc ma tension sur R2, je peux aussi la calculer par différence. C'est-à-dire que la tension sur R2, bah, c'est ma tension totale moins la tension sur R1. Donc c'est pas la peine que je m'amuse à sortir ma belle formule là pour R2. Tout simplement. Et puis après, bah, y a la manière empirique de Richard, qui lui voit tout de suite que voilà la répartition c'est 80-20. Voilà, il n'y a pas de
80%.
80%, 20%. Ou 4 cinquièmes, 1 cinquième. Mm-hmm. C'est pareil. Hein, une fois qu'on a la notion des nombres comme ça, c'est quand même beaucoup plus facile. Voilà. Et donc, quand on est en méthode empirique, comme je vous préconise plutôt à avoir, tout au moins dans un premier temps, pour essayer de dégrossir les valeurs, après, dans les questions d'examen, souvent, par élimination, déjà on en retire deux qui sont complètement, complètement farfelus. Et après, il y en a peut-être deux, mais au pifomètre, sans faire de calcul, voilà, je dis n'importe quoi. Imaginons que dans une des réponses, il y ait 5 volts. Ça peut pas être 5 volts, puisque on n'a pas la c'est pas répartition moitié-moitié. Alors après, qu'on vous propose 2 volts ou 3 volts, là, avec un calcul comme ça, il n'y a pas de débat. Mais si vous avez des valeurs un peu plus subtiles, ou des tensions aussi qui ne sont pas le 10 volts, je comprends que vous hésitiez entre 2 volts et 3 volts, parce que voilà, c'est proche. Mais voilà, et si dans les propositions on vous dit, je dis n'importe quoi, 10 volts, 15 volts, 5 volts et 2 volts, enfin pour R2, c'est naturellement que vous allez dire 2 volts, puisque les autres vous les éliminez.
Bah 15 c'est pas possible.
15 c'est pas possible. 10, c'est pas possible non plus, puisqu'il y a déjà une résistance. Sauf si la résistance elle est nulle.
Mais bon, ils peuvent quand même proposer 15 volts comme ils sont assez tordus.
Oui, oui, mais bien sûr.
Ou 25.
Ou même 25, mais bon.
Ouais.
Oui, non, mais voilà. Après, c'est à vous d'être
vigilant
dans les réponses proposées. Bon, ça c'est relativement simple. Deuxième autre question. L'intensité, on a vu que l'intensité, elle était tout le temps la même. Et donc l'intensité, c'est quoi? C'est l'intensité totale divisée par la résistance totale. Donc c'est mes 10 volts divisé par 100 ohms. Ce qui fait un dixième d'ampère, donc 100 milliampères. Mais c'est aussi mes 8 volts que j'ai eu sur ma résistance là par rapport à la résistance de 80 ohms. Donc c'est pareil. Ça va me faire 8 divisé par 80 et au miracle, ça donne encore 100 milliampères. Et on fait la même chose sur la résistance 2, donc 2 volts divisé par 20 ohms et c'est encore 100 milliampères, heureusement. Donc tout ça, c'est pour vous montrer que la loi d'Ohm, elle est assez simple d'utilisation. Et on peut prendre le problème dans tous les sens, on doit retomber toujours sur nos pieds. Le calcul le plus tordu, et j'ai oublié de me mettre sur 144, F6 KGL opéré par F6 GPX pour le cours du Radio Club de Neuilly-sur-Marne du vendredi soir, qui est déjà commencé. Nous en étions aux répartitions du groupe, de la puissance dans le groupement série. Bon, déjà, la puissance dissipée par ce réseau, c'est quoi? C'est donc P égale UI, I 100 mA, U 10 volts, 10 fois 100 mA, ça me fait 1 watt. Ok, ça marche. Je peux aussi m'amuser à calculer puisque si je n'ai pas calculé I auparavant, avec juste les éléments que j'ai ici, je peux utiliser U2 sur R. U2, 10 fois 10, 100, divisé par R, 100. Ça me fait encore un watt. Et puis je peux être très tordu, c'est-à-dire utiliser les résistances et l'intensité qui est là. Donc je fais P égale RT, donc la résistance totale multipliée par l'intensité totale au carré. Résistance totale 100 ohms multipliée par l'intensité au carré, donc 0,1 fois 0,1. Et ça me fait encore un watt. Et puis après, la répartition de ma puissance sur mes deux résistances, là. Donc j'applique encore une fois mes formules que j'ai vues la semaine dernière. Donc ma puissance, elle est répartie au prorata des résistances. Ça, c'est la formule, je dirais, empirique. Pourquoi? C'est que la Puissance, c'est tension multipliée par intensité.
Bah oui.
On a vu que l'intensité, elle était constante. Donc ce qui va différencier, c'est la tension, et donc, enfin, ou la résistance, et la tension, elle est proportionnelle aux résistances. Donc ma puissance va être proportionnelle aux résistances, ou à la tension, comme on veut. Mais c'est le même phénomène. Et après, là, bah, il suffit que je prenne pour ma répartition de ma puissance, c'est donc la puissance totale multipliée par la valeur de la résistance divisée par la résistance totale. Et ça me fait 0,8 watts. Et je peux le prendre aussi avec la tension sur R1 et l'intensité dans R1. Tension sur R1, c'est 8 volts multiplié par 0,1 ampères. Ça fait 0,8 watts. Là, on peut le faire dans tous les sens, y compris dans mon cas ici de la puissance sur la résistance 2, je peux prendre la tension au carré divisée par la résistance 2. La tension au carré, c'est donc 2 fois 2, ça me fait 4, divisé par 20, bah, ça me fait encore 0,2 watts. Je peux prendre ça dans n'importe quel sens. Là ici, je vous ai rappelé ici mes fameux triangles qui vont me servir pour ma loi d'Ohm. Et donc là, PUI, ben, je l'ai ici, donc je cache P et ça me donne U multiplié par I. Si j'utilise cette valeur ici, enfin cette formule ici, U2 sur R, P égale U2 sur R, ici j'ai P, U2 et R, donc je cache ici, et j'ai bien ma valeur qui me fait P égale U2 divisé par R, puisque U est en haut. Donc c'est U2 divisé par R. Ça, c'est mes triangles magiques. Vous avez en tête ces quatre triangles-là, et vous pouvez utiliser la loi d'Ohm dans tous les sens. Après, il faut trouver le triangle où il y a les unités qui vous intéressent. Mais les quatre unités, enfin à chaque fois, il y a trois des quatre unités. C'est pour ça qu'il y a quatre triangles. Il y a toutes les possibilités. Et donc, avec ces quatre triangles, on a les 12, ce qu'on appelle les variantes de la loi d'Ohm et de Joule. Parce qu'en fait, la loi d'Ohm, c'est P égale 8. La loi de Joule, c'est P égale 8. Et la loi d'Ohm, c'est U égale RI. Et donc, à partir de ces deux lois-là, on en déduit les 12
valeurs.
Les 12 valeurs de la loi. Enfin, oui, les 12 équations ou valeurs de la loi d'Ohm et de Joule.
On n'a pas le droit de se tromper avec ça.
Ah, bah, normalement, on n'a pas le droit de se tromper. Hein. C'est redoutable. Et il faut toujours l'avoir sous le nez, en fait. Enfin, tout au moins. Alors, si on l'a pas sous le nez, faut l'avoir dans la tête.
Faut l'avoir dans la tête.
Alouette.
Donc ça, c'est le groupement série. Le groupement parallèle. Groupement parallèle. Donc j'ai toujours mes deux résistances, 80 et 20 ohms, que j'ai toujours appelé R1 et R2, ça ne change pas. Et mes 10 volts, là, c'est donc... sur les deux résistances. On va le faire dans le même ordre que ce que l'on a vu précédemment, c'est-à-dire qu'on va commencer par la résistance équivalente, qui n'est pas très simple. Alors attends, je regarde les commentaires quand même. Il n'y a rien. Deux manières de calculer. Première manière, c'est une méthode que j'appelle produit sur somme. Ceci n'est valable que pour deux résistances. J'insiste lourdement, si vous avez trois résistances, il faut commencer par faire la résistance équivalente de deux, puis après de recommencer le calcul avec la troisième.
Avec la troisième résistance.
Etc. Donc, si vous avez plus que deux résistances, c'est peut-être pas la bonne méthode. Voilà. Là, en l'occurrence, il y a que deux résistances et des valeurs relativement simples, donc on devrait s'en sortir. Produit sur somme, c'est quoi? C'est produit, donc 80 multiplié par 20, que je divise par 80 plus 20. Donc 80 fois 20, ça fait 1600, et 80 plus 20, ça fait 100. Donc 1600 divisé par 100, je ne sors pas ma calculette, encore une fois, ça fait 16.
Oh, t'as trouvé ça aussi.
Ça, c'est bien. Hein. Alors, juste une remarque, et ça, c'est important pour être certain qu'on ne se soit pas planté quelque part. La valeur de la résistance équivalente est toujours plus petite que la plus petite des résistances.
C'est exact.
Ça, ça... Bah oui, mais...
Ouais, mais...
Hey, si on s'est planté dans le calcul, ça permet au moins... De lever le doute.
Ouais.
Voilà. Autre manière de voir les choses, et ça je vais sortir ma calculette parce que alors là, deux têtes, c'est impossible à faire, c'est ce que j'appelle, moi, l'inverse de la somme des inverses. Alors, c'est une formule à la fois simple et compliquée. C'est l'inverse, donc c'est 1 divisé par, et je fais la somme des inverses. Donc là, c'est le premier inverse, le deuxième inverse, je fais la somme des deux, et c'est donc l'inverse de la somme des inverses. Et ça, c'est valable quel que soit le nombre de résistances. C'est-à-dire que si j'avais trois résistances, j'ajouterais encore l'inverse de cette résistance. Et si j'en ai quatre, j'en mets quatre. D'accord ? Donc ben, on va le faire à la calculette, parce que on est là pour ça. Alors, on. Je me mets sur ma calculette, Full HD, hop. Alors, et je fais 1 divisé par, j'ouvre ma parenthèse, ne pas oublier d'ouvrir la parenthèse, sinon ça va merder votre truc.
Tout moi j'ai...
1 divisé par 80, ouais, toi t'as avec ta calculette que j'ai toujours pas compris comment ça marchait, mais c'est pas grave, c'est pas à mon âge que je vais l'apprendre.
C'est si simple.
Voilà, donc c'est ça que je tape. Alors c'est vrai que sur ma calculette, entre le divisé et le plus, pas évident, mais voilà, quand c'est divisé le premier, bah, tous les chiffres là sont... Parce que j'ai un stylo. Parce qu'avec mes gros doigts, on voit rien du tout. Donc ici, ça c'est divisé. Pardon. Divisé. Ici divisé. Ici divisé. Ici addition.
Et, ça, c'est plus.
Et n'oubliez pas de fermer la parenthèse.
Et sinon, la calculatrice, elle râle.
Et sinon, alors, celle-là, elle ne râle pas, mais on n'est pas certain que ça râle pas. Enfin, tout au moins, des fois, si ça râle pas. Ça affiche un mauvais résultat, donc c'est un peu con aussi. C'est aussi gênant. Là, je fais exé pour lancer le calcul, et ça me donne donc 1,6 10 puissance 1, c'est-à-dire que si je décale d'un cran ma virgule vers la droite, ça me donne 16. Un 10 puissance 1, je décale d'un cran vers la droite. Et si c'était moins 1, bah, je décalerais ma virgule vers la gauche d'un cran. D'accord ? Donc ça, voilà le 16, et heureusement, je retrouve le même calcul, le même résultat, hein, au passage. C'est quand même bien agréable. Oui, donc on l'a déjà vu, la remarque que la résistance équivalente est toujours plus petite que la plus petite du résistance du groupement, et ça c'est valable quel que soit le nombre de résistances qu'on a. Là j'en ai deux, mais si j'en avais 100, ça prendrait la plus petite, on regarderait par rapport à la plus petite des résistances.
Et c'est vrai que dans les questions il peut y avoir des pièges.
Bah oui, après il y a des pièges, donc par élimination il y a des trucs qui sont pas possibles, quoi. Alors après, pour avoir, pour pifométrer, je dirais, une valeur comme ça, c'est pas évident. En règle générale, plus ici cette valeur est importante, moins finalement ça va peser sur la diminution de la valeur de la plus petite. Enfin, c'est compliqué à expliquer, mais en fait, quand on réfléchit non pas en résistance mais en conductance, donc en inverse,
donc
sur l'inverse, et là on comprend mieux parce que évidemment une forte résistance a une faible conductance et donc n'a quasiment pas d'incidence sur la conductance globale. On se retrouve dans le même cas finalement que mes résistances série, sauf que c'est plus des résistances, c'est des conductances.
C'est des conductances.
Et encore une fois, c'est M. Ohm qui a défini qu'il préférait parler de résistance, mais parce que lui, il voyait plutôt génération d'une tension et éviter le passage d'un courant. Mais il aurait pu très bien imaginer le côté conductance, côté conducteur, quoi.
Ça conduit plus ou moins.
Voilà, mais il y a une loi qui n'est pas la loi de Ohm, qui est la loi de Siemens, qui est juste l'inverse. C'est-à-dire que la loi de Siemens, elle dit que la tension, c'est l'intensité divisée par la conductance. Répartition de la tension, il n'y a pas de répartition puisqu'on voit bien que la tension là, elle est la même sur R1 et la même sur R2. Donc il n'y a pas de problème de répartition de tension. Elle est partout la même.
Les courants qui ne sont pas pareils.
Les mesures de conducteur, ça existe.
Ça existe, ouais.
Ça existe pour la mesure, j'avais vu ça. De la résistivité, justement de la conductance de l'eau, pour savoir si elle est plus ou moins chargée.
Plus ou moins chargée en calcaire ou en sel minéraux.
Et on parle en Siemens.
Ah oui.
Ah ouais.
Et dans ce, tu pourrais parler de 1 sur eau, mais c'est pareil. Hein,
c'est, oui, mais c'est plus parlant, apparemment, ils travaillent comme ça.
Mais tu dois me dire comment ?
À l'ohmmètre ?
Non, c'est une sonde spéciale.
C'est
une sonde spéciale avec...
Comme une sonde pH ?
Ouais, un petit peu. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un tube avec une lame au milieu, puis il y a des trous dans le tube pour que l'eau puisse passer, et ça mesure la résistance entre lame...
Et ce tube.
Et puis ce tube en question. Alors c'est calibré.
Oui.
Et c'est quoi comme matière, justement, c'est ça ?
C'est
du cuivre.
C'est pour pas ajouter du.
Ah non, c'est l'inox. Hein,
c'est l'inox. Ah oui, faut pas que ça puisse s'oxyder.
C'est l'inox et du téflon. J'ai travaillé dans un truc.
Ah ouais.
Comme ça.
Une fois. L'inox.
L'inox en tube et puis le lame est aussi en inox.
C'est isolé
avec du téflon.
Juste pour la zone qui doit.
Ah bah oui.
Mais c'est calibré.
Oui, pour. Les écarteurs, quoi.
C'est ça. Il n'y a plus maintenant, mais avant, sur les bouteilles d'eau minérale, il y avait la résistivité. Enfin, il y avait effectivement Siemens. Il n'y a plus maintenant. Mais il y a eu.
L'intensité, comme la tension est constante, ce qui va bouger, c'est l'intensité, c'est la répartition de l'intensité. Et là, la répartition de l'intensité, en fait... Pour faire simple, l'intensité est répartie à la conductance. Plus ça conduit, plus il y a de l'intensité. Et finalement, comme je dis que c'est proportionnel à la conductance, ça veut dire que l'intensité, elle est inversement proportionnelle à la résistance. Puisque la conductance, c'est l'inverse de la résistance. Donc, on va commencer par calculer l'intensité totale. L'intensité totale I est égale à U sur R. Voilà, on reprend mes triangles de la loi d'Ohm qui sont là. Ici, je les ai mis là, I, je cache I, et I est égal à U sur R. Donc 10 divisé par 16. Alors, vous avez le droit de prendre la calculette. Hein.
Ouais. Je vais l'allumer.
Voilà. Et là, vous trouvez 0,625. Donc, ça veut dire que c'est 625 milliampères. Et puis après, mon intensité, elle est donc répartie au prorata inverse des résistances. Ce qui veut dire que... alors déjà, je peux faire l'intensité dans R1, ici, c'est égal à la tension divisée par la résistance. On est d'accord ? I est égal à U sur R, toujours. Donc, U, 10, divisé par 80. Ça me fait 0,125. Autre manière de répartir, c'est je répartis au prorata inverse de mes résistances. Donc mon intensité, mes 625 milliampères, je multiplie par la résistance totale et je divise par R1. En fait, il faut bien se rendre compte que RT, la résistance totale, est inférieure à R1. Elle ne peut être qu'inférieure puisque elle ne peut être qu'inférieure à la plus petite des résistances. On l'a dit tout à l'heure. Donc, mon intensité totale, enfin, mon intensité dans R1, ne peut pas être supérieure à l'intensité totale. De toute façon, c'est absolument impossible selon la loi de Kirchhoff. Puisque mon intensité, elle arrive ici dans ma branche du haut et elle se répartit ici dans mes deux résistances pour repartir par là. Donc si elle se répartit, c'est que il n'y a rien qui est créé, hein. Elle s'est coupée en deux, c'est tout. J'ai des électrons qui passent dans une résistance et des électrons qui passent dans l'autre. Donc ma valeur là, c'est donc 625 multiplié par 16 divisé par 80. Donc si je fais multiplier par 16 divisé par 80, je vais avoir une valeur obligatoirement inférieure à 0,625. Et là, si je prends ma calculette pour faire tout ça, parce que de tête, je vais avoir un peu de mal, et ben ça me donne donc mes 125 milliampères, et au miracle, c'est bien ce que j'ai là.
Et pour trouver I2, il suffit d'enlever 0,625.
Alors, pour trouver I2, il y a deux méthodes. Soit on reprend même méthode, ou par différence.
Soustraction, comme tout à l'heure.
Bah oui, par différence. C'est-à-dire que l'intensité, si elle passe pas, alors l'intensité totale, si elle passe pas dans R1, bah elle va passer dans R2. Et inversement. Et puis je peux m'amuser à faire des formules dans tous les sens. Ça marchera toujours. Ma répartition de puissance maintenant. Donc ma puissance totale, toujours U multiplié par I, U 10 volts, I 625 milliampères, ce qui me donne donc 10 fois 0,625 égale 6,25 watts. Et cette répartition, là, elle est répartie au prorata inverse des résistances. Pourquoi ? C'est que ma tension, elle est fixe. Et ce qui est variable, puisque là, ma puissance est toujours P égale UI, hein, là, ça ne bouge pas. Ce qui est variable, c'est mon intensité, et c'est donc dans la résistance où il y a le plus d'intensité que je vais avoir le plus de puissance dégagée. Et donc, je peux m'amuser à faire tous les calculs dans tous les sens, encore une fois, et je vois bien que ma loi de Joule, elle fonctionne encore très bien, puisque... la puissance dans R1 plus la puissance dans R2, ça me donne ma puissance totale. Donc, je vous laisse faire tous les calculs possibles et imaginables sur votre calculette pour que voilà, vous vous entraîniez. Et n'oubliez pas, à chaque fois, normalement il n'y a pas besoin, mais c'est mieux de l'avoir en tête, de rajouter les parenthèses. Là en l'occurrence, j'en ai pas besoin, dans ce cas-là précisément, mais c'est pas le cas tout le temps. Donc vaut mieux avoir l'habitude de mettre des parenthèses, même même si elles sont inutiles, si on a trop, c'est pas grave, il y a juste une touche en plus appuyée, plutôt que d'oublier justement une des parenthèses et qui pourrait poser problème. Donc voilà, on a fait les exercices sur ces groupements séries et parallèles, et on en arrive, parce que là où on a fait des cas simples, séries ou parallèles, bien évidemment, on peut combiner. Ça serait trop drôle sinon. Donc dans ce cas-là, ce qu'on appelle un réseau complexe, qui peut être composé de plusieurs réseaux, séries, parallèles, entrecroisés, enfin, on peut imaginer des tas de choses, et la question sera toujours, quelle est la résistance équivalente ? Alors évidemment, dans la vraie vie, on ne va jamais avoir des réseaux comme ça, ça ne sert à rien, on est bien d'accord, mais ça fait partie des questions d'examen.
Oh, ça va pas non plus très très loin au niveau du nombre de résistances dans l'examen.
Non, il y a...
D'après ce que j'en ai vu...
Oui.
3, 4...
Ouais, il y en a 4, voilà. Ouais.
Maximum.
Ouais.
Mais quand même.
Voilà, faut avoir... Faut réfléchir un petit peu. L'idée, c'est de faire, en fait, de résoudre à chaque fois la résistance équivalente de l'ensemble le plus élémentaire. Et à chaque fois, bah, on rajoute quelque chose en plus. Alors ça semble simple comme ça, mais voilà, on va avoir quelques exemples. Et souvent à l'examen, c'est plutôt la forme, c'est-à-dire la présentation du schéma qui peut être perturbante, et qu'il vaut mieux éventuellement redessiner de manière plus
parlante oui, tout à fait.
Parce que des fois c'est un peu tordu, on va en voir quelques-unes.
Mais c'est exprès.
Et c'est exprès, c'est pour voir si vous suivez. Voilà.
Allez, j'en vois une là.
Ouais, mais on va les voir. Donc première, alors celle-là, bon, pas de cas particulier. Ouais. Donc, bon, voilà, j'ai 100 ohms, 150 ohms. Donc, bah, on va essayer de calculer la résistance équivalente de ça. Donc, 100 fois 100, 150, ça fait 15 000. Divisé par 250. Alors, 15 000 par 250, j'avoue... Je sors la calculette pour pas me planter.
60.
Et ça fait 60. Ouais. Voilà, je l'avais noté, ça fait 60. Et j'ai derrière une résistance en série qui fait 40 ohms, donc ça me fait 60, cet ensemble-là, plus 40, ça me fait 100. Tout ça pour ça. Alors que ma résistance de 100 ohms, je l'avais ici. Hein. Donc j'aurais pu très bien m'épargner cette résistance-là et cette résistance-là.
Oui, mais peut-être pour des questions de puissance.
Ah, peut-être pour des questions de puissance. Allez, je suis d'accord. Ben, voilà. Et puis, si on veut être tordu, si on veut être puriste, pour la résistance équivalente de l'ensemble, là, je fais l'inverse de la somme des inverses. Donc, 1 divisé par 1 divisé par 100, plus 1 divisé par 150. Et ça, c'est plus de l'entraînement à utiliser votre calculette. Et normalement, si tout va bien, ça doit donner 60 ou 6 10 puissance 1, selon ce que vous avez paramétré comme affichage. Et après, on continue, mes 60, je rajoute mes 40, ça me fait 100. Yes. Deuxième réseau complexe, un peu tordu quand même, parce que quand on regarde ça rapidement, on se dit, bah, c'est 10 résistances qui sont
en parallèle. Et c'est exact.
Hein, c'est le piège.
Ça, c'est le piège. Ça.
Et en fait, non, elles ne sont pas en parallèle, parce que là, je n'ai pas de contact ici, et là, je n'ai pas de contact ici. Donc, ça veut dire que cet ensemble-là, ce sont donc 5 résistances en parallèle, on est bien d'accord, mais suivi de deux résistances ici en série. Alors évidemment, dans les réponses, il va y avoir 10 divisé par 7, ce qui fait 1,5, quelque chose comme ça. Ça, c'est certain. Mais c'est pas ça la réponse. La réponse, c'est donc 10 divisé par 5, puisque ici, ce sont des résistances en série de même valeur. Donc, je prends ma résistance de 10 et je divise par 5, puisque j'ai 5 résistances. Donc, 10 divisé par 5, ça me fait 2. Et en série, j'ai 2 fois 10 ohms. Donc, 2 ohms plus 10 plus 10. Ou 2 ohms plus 2 fois 10, comme on veut. Et ça me fait 22 ohms.
Merveilleux.
Donc ça, ça fait partie des pièges, entre guillemets. Donc il faut bien avoir... voilà, faut pas sauter tout de suite. Faut regarder, un, s'il y a un piège, et deux, où est le piège. Parce que quelquefois, il n'y a pas de piège aussi. Hein. On cherche un piège alors qu'il n'y en a pas.
D'accord.
Voilà, ça, c'est des questions. Celle-là, elle est simple pour moi. Enfin, elle est sans piège. Celle-là, elle est un peu plus tordue.
Et on perd un point bêtement.
Et on perd un point bêtement
si on fait pas gaffe.
Si on fait pas gaffe, exactement.
Ouais, tout à fait.
Les questions un peu plus compliquées, ça c'est une question autour du pont de Wheatstone qu'on va voir d'ailleurs tout à l'heure pour la manip de la soirée. Le pont de Wheatstone, je rappelle, ce sont deux réseaux de résistance. Hein, donc ici c'est mon point d'alimentation, ici ma masse. Et soit on vous dit qu'il n'y a pas d'intensité entre les deux branches ici si je les rejoins, ce qui veut dire en clair que j'ai pas de tension. Hein, ma loi d'Ohm, elle dit que la tension c'est égal à la résistance multipliée par l'intensité. Si j'ai pas d'intensité,
il
n'y a pas de tension. Puisque ma résistance en plus, j'ai pas vraiment de résistance. Parce que ici, le système là est ouvert. Ce qui veut dire que si j'ai pas de tension entre les deux là, ça veut dire que ma tension que j'ai ici est égale à la tension que j'ai ici.
Exactement.
C'est ça que ça veut dire. Et si mes deux tensions ici sont égales, ça veut dire que mes résistances de chaque côté, là, elles sont proportionnelles l'une l'autre. Donc, cet ensemble-là de résistances est proportionnel à cette résistance-là. Et donc, maintenant, il faut trouver la résistance qui est ici, qui permet d'équilibrer le pont, parce que ça, c'est un pont de Wheatstone dit équilibré, puisque j'ai la même tension. Et donc, il faut trouver cette résistance qui permet d'équilibrer le pont. Quelle résistance je vais devoir mettre ici pour obtenir une tension nulle ou une intensité nulle, qui est pareil. Et donc là, je vais utiliser ce que l'on appelle le produit en croix, c'est-à-dire faire en sorte que ma résistance là soit proportionnelle, enfin que mes deux résistances là soient proportionnelles à ces deux là. Et le produit en croix, c'est quoi ? C'est sa première diagonale, c'est là où j'ai mon inconnu, avec ici ce qu'on appelle la valeur opposée. La deuxième diagonale est ici. Et donc mon produit en croix, c'est la multiplication de la deuxième diagonale divisée par la valeur opposée. Donc c'est 80 fois 4 divisé par 20. Alors 80 fois 4, 320 divisé par 20 égale 16. Donc on voit bien là, alors on peut aussi le faire de manière plus empirique sans passer par le produit en croix. on voit ici que la résistance du bas, elle est 5 fois plus petite que la résistance du haut. C'est-à-dire que là, ma résistance de 4 ohms, elle est 5 fois plus petite que la résistance de 20 ohms. Hein, 5 fois 4, 20. Ce qui veut dire que de l'autre côté, ma résistance ici de 80 ohms, bah, elle doit être 5 fois plus petite. Enfin, ma résistance R2 doit être 5 fois plus petite que celle de 80 ohms.
Absolument.
Donc je fais 80 divisé par 5. Et là, peut-être que je prends ma calculette. Parce que enfin, je ne le fais pas de manière simple. Et ça me fait 16. Autre manière aussi, je rappelle les caractéristiques de mes rapports proportionnels. Si c'est proportionnel dans ce sens-là, c'est aussi proportionnel dans l'autre sens. Et donc là, je vois 20 et 80, ici, c'est 4 fois plus important. Donc, sur R2, R2 sera 4 fois plus important que 4 ohms. 4 fois 4 égale 16. Ça marche dans tous les sens. Ça, c'est la magie des matrices carrées de 2. C'est beau la vie, hein?
Non, c'est bien, hein?
Voilà, et donc j'ai quelque chose qui est proportionnel. Alors vous me direz, à quoi ça sert? Ça va servir énormément.
Ça sert, ça.
Énormément. Et ça va servir aussi. Ouais. Et ça va servir, enfin, dans tous les instruments de mesure, souvent.
Au niveau du galvanomètre.
Ah ouais, c'est que ça et.
Dans plein de bancs.
Ouais. On va l'avoir dans des tas d'applications. Et même dans des applications radio, parce que ça va permettre aussi, si on a une valeur ici, non pas une résistance, mais une impédance, donc quelque chose dont on ne connaît pas la valeur, on peut, à partir de. En mettant à l'opposé, par exemple ici, un condensateur, on équilibrera le pont si on a ici un condensateur, sinon c'est pas équilibré. Donc ça va aussi, quand on a du déphasage, être utile de mesurer quel est le composant qu'on a en face, typiquement une antenne.
Oui, d'accord.
Une antenne, comme ça, à la place de mettre une résistance, là tu mets une antenne, et ça te permet comme ça de savoir l'impédance de l'antenne, déjà sa résistance et son impédance, savoir si elle est plutôt capacitive ou plutôt inductive.
Plutôt inductive, d'accord. C'est la méthode justement pour mesurer.
Ouais.
Je me suis toujours demandé comment mesurer les impédances des antennes.
Bah c'est ça.
Ah, carrément.
Et alors là, tu mets pas un voltmètre là, mais tu mets par exemple un récepteur. Et quand tu n'as plus, quand tu n'entends plus rien,
c'est que
c'est accordé.
D'accord.
Justement. Et là, tu mets un générateur de bruit ou quelque chose comme ça. Mm-hmm. C'est le truc tout bête, hein, mais qui est. Alors maintenant, on a des outils beaucoup plus. Les fameux VNA, là, les analyseurs vectoriels d'antenne. C'est un outil numérique qui est basé en partie là-dessus, mais pas complètement. Et les vieux analyseurs d'antenne, si vous en avez connu, des MFJ 800, je ne sais plus combien, là. 859 de mémoire
à aiguille,
il fonctionnait avec un système comme ça.
Ouais.
Maintenant, un VNA, ça coûte rien, ça coûte 50 euros.
Ça. Ouais.
Ça coûte 50 euros, ça marche super bien.
Mais oui, mais on ne voit plus, on ne comprend
plus. On comprend plus à quoi ça. Oui, comment ça marche.
J'en ai un, j'ai acheté un analyseur d'antenne.
Écoute, c'est tellement, bluffant comme truc.
Payer 500 balles.
Ah oui. Ça marche plus ou moins bien, mais.
Ouais. Enfin, ça donne une idée quand même.
Ça donne une bonne idée. ça donne une bonne idée, mais...
Déjà, c'est plus précis.
Mais ça, c'est plus précis, et...
ce qu'on fait.
Et on sait ce qu'on... Enfin, on comprend ce qu'on fait, là. Deuxième...
On comprend comment ça fonctionne,
ouais. Ouais, on comprend comment ça fonctionne. Deuxième exemple, ici, avec ce pont diviseur. Donc là... qu'est-ce que je veux mesurer, enfin, quelle est la question? Je dois calculer ici l'intensité dans cette résistance-là. Donc là, il y a quand même pas mal de...
Attends, l'intensité dans laquelle résistance?
Dans 5 ohms, dans la résistance de 5, de 5 kilo-ohms.
5 kilo, ah oui. Ah oui, d'accord, oui, le point de l'atelier.
D'accord. Donc déjà, il faut comprendre la question. Et après, quels sont les éléments qui vont permettre de répondre? Bon, déjà, si j'ai un système comme ça, c'est que j'ai une partie du courant qui passe là, une partie du courant qui passe de l'autre côté.
Mais je comprends pas bien. U24, c'est sur la totalité?
Non,
c'est
non.
Uniquement sur
2 kilos. Ouais.
Ah, oui.
Voilà. Donc, on commence déjà, évidemment, par calculer l'intensité totale, c'est-à-dire qu'est-ce qui passe dans ma résistance de 2 kilo-ohms. D'accord?
Ouais.
Donc I est égal à U sur R, on est parti, U 24 volts, R 2000. Donc 24 divisé par 2000 égale 12 milliampères. Et mes 12 milliampères, bah, comment sont-ils répartis? Donc bah, mes 12 milliampères, alors soit vous êtes... vous êtes un peu affûté et vous vous dites, alors voyons, mes 12 milliampères, ça se répartit pas évidemment moitié-moitié, puisque mes deux résistances, alors elles sont quand même pas trop loin l'une de l'autre. Donc on va se dire, c'est pas moitié-moitié, mais c'est un tout petit peu moins de la moitié sur 5 kilo-ohms et un tout petit peu plus sur 3 kilo-ohms. La moitié, c'est 6 milliampères. Voilà, donc si j'ai un truc aux alentours de 4-5 milliampères sur la deuxième ici, ça me plaît bien. D'accord? Ça, mais ça, c'est quand vous êtes... enfin, faut avoir un peu de... Comment dire de, faut sentir la chose, hein, c'est pas aussi évident que ça. Et puis, il y a une deuxième solution qui consiste à sortir sa calculette. Et là, eh ben on y va, on tape dans le dur.
Faut calculer la résistance.
Alors la résistance équivalente, on va se la calculer à la calculette. Et je vais la calculer avec la méthode inverse de la somme des inverses, parce que celle-là, il faut que vous l'ayez en tête.
Ah d'accord.
Alors, 1 divisé par, j'ouvre ma parenthèse, 1 divisé par 3 plus 1 divisé par 5. Alors, plutôt que de mettre des kilo-ohms et de m'embêter, si j'utilise, sans utiliser les kilo-ohms, je sais que mon résultat, là, va être en kilo-ohms. Donc, faut pas juste que j'oublie qu'il est bien en kilo-ohms. Donc, si je fais exé, ça me donne 1,875 10 puissance 0. Donc, 1,875 kilo-ohms. Oui, 1,875 kilo-ohms. Soit 1875 ohms, comme on veut. D'accord?
Donc c'est plus petit que la résistance du haut.
Donc c'est plus petit que la plus petite des résistances.
Et il y aura plus que 12 milliampères.
Voilà. Et donc maintenant, je fais mes... Alors je fais mes 12 milliampères. Donc 12, c'est pas la peine que je mette milliampères, je sais que je vais avoir des milliampères, que je multiplie par ma réponse que j'avais, et que je divise par ma résistance, c'est-à-dire mes 5 kilo-ohms. Je ferme ma parenthèse, je fais exé, et je trouve 4,5 10 puissance 0, donc 4,5 milliampères. Voilà. Faut que vous ayez... Alors, et ça, des questions comme ça, il y en a Enfin, énormément. Il y en a pas mal. Donc, il faut que vous ayez bien ça en tête, ce genre de schéma, que ce soit le pont de Wheatstone ici, celui-là ou les deux autres schémas qu'on va voir, enfin, l'autre schéma qu'on va voir derrière, on en a régulièrement. Mais là, c'est juste une histoire de ma... En fait, la question, c'est plutôt la répartition de l'intensité. Alors, évidemment, au début, il faut calculer l'intensité. L'autre question, là, c'est plus simple, puisque ici, on me donne une résistance dont on se fout de la valeur, mais on me dit... Donc, à la limite, je pourrais l'ignorer. Elle ne sert à rien dans le problème. Ici, je sais que j'ai 300 mA. Et ces 300 mA... Eh ben, qu'est-ce que je dois calculer là ? 1, 1, 1. Ah bah oui, la résistance ici. R1. Puisque j'ai la valeur ici de ma deuxième résistance, sa tension. Donc j'en déduis ici la valeur
de l'intensité.
De l'intensité. Ouais. 120 mA. Hein, 12 divisé par 100. 120 mA. Et comme j'ai déjà 300 mA qui arrive ici sur le circuit, bah, par différence, l'intensité qui va passer dans R1, c'est donc 180 mA. 180 mA avec 12 volts. Donc R est égal à U divisé par I. Donc 12 divisé par 180, et bah, ça me donne 66,7 ohms. D'accord ? Quand je dis 180, 180 mA. Donc, voilà. Donc, on a ça dans... Et ça, c'est de l'application de la loi d'Ohm. Alors après, il faut trouver la bonne méthode. C'est presque ça qui demande le plus de temps. C'est trouver la méthode pour arriver au résultat. Donc, je vous recommande... Dans ce cas-là, de dessiner votre schéma sur votre papier brouillon et de noter les différentes étapes en disant, ben voilà, je sais que là j'ai tant de milliampères, donc ici ça me fait tant de milliampères, et comme ça, si des fois vous êtes perdu dans votre raisonnement, le fait de l'avoir écrit, ça va vous permettre de trouver la bonne réponse.
D'accord. Oui. Ils peuvent compliquer dans les schémas avec des
éléments
qui
ne
servent à rien.
Avec, ah oui, ah, ça, ouais, ça ils sont coutumiers du fait. Hein.
D'accord.
Et puis, alors ça, c'est pas une question d'examen, mais parce que j'en ai jamais vu des aussi compliqués que ça, mais ça pourrait en être une. Donc là, l'idée, c'est de... Voilà, on ne sait jamais. Donc là, c'est un réseau évidemment super complexe. Donc, premier réseau, je commence par celui-là, mais aussi je pourrais aussi commencer par celui du bas, là. Les deux réseaux, les plus simples, c'est celui du bas ici et celui ici. Voilà. Donc on peut commencer par n'importe lequel des deux. Mais on va commencer par celui-là, puisque je l'ai déjà noté numéro 1. Donc 150 et 200, ben je le reprends, alors soit le produit sur somme, ou l'inverse de la somme des inverses, comme vous voulez. On va prendre produit sur somme pour changer. Donc 150 fois 250, alors là j'ai un peu de mal. 150 fois 250 égale... 37 500, divisé par 150 plus 250, 400. Ça, je le fais quand même de tête. Et ça me donne donc 9,375 10 puissance 1. Donc je décale d'un cran ma virgule vers la droite. Ça me fait 93,75 ohms. J'ai une résistance de 75 ohms ici en série. Donc je rajoute cette résistance de 75 ohms. ça me fait 168,75. J'ai intérêt à noter à chaque fois ce que je fais, parce que sinon, je vais être perdu. Ici, ma résistance, enfin mon ensemble numéro 3, ça me donne 110, à 30 plus 80, 110. 110 et 168,75 ici, donc le réseau numéro 2, voilà, produit sur somme encore une fois, ça me donne 66,59. Plus une résistance de 100 ohms en série, ça me donne donc 166,59. Et en règle générale, c'est arrondi, donc à 167 dans ce cas-là. Voilà. Bon, c'est... Alors encore une fois, c'est pas réellement une question d'examen, mais ça pourrait l'être.
En tout cas, ça sert d'entraînement.
Et ça sert d'entraînement en se disant, oh là, qu'est-ce que... Et ça vous permet aussi d'avoir une idée du temps qu'il vous faut pour répondre aux questions de technique. N'oubliez pas qu'il n'y a que 30 minutes pour vos 30 questions.
20 questions,
30 minutes, ouais. Donc ça fait une minute et demie.
Une minute et demie en moyenne.
En moyenne.
Il faut pas traîner.
Et dans ces cas tordus comme ça, on y passe avec le stress. On y passe un peu plus d'une minute et demie. Donc après, il y a intérêt à courir pour d'autres. Enfin, quand il n'y a pas de questions avec des calculs. Alors, d'après les comptes rendus récents, il semble, j'ai bien dit, il semble qu'il y a quand même de moins en moins de calculs.
D'accord.
C'est plus des questions. Quelle est la propriété de tel circuit ou voilà.
D'accord.
C'est plus des questions.
Pour la technique.
Pour la technique et la réglementation aussi.
La réglementation. Normalement, la réglementation, on n'a pas de calculatrice. Mais
il n'y a pas besoin. Normalement, il n'y en a pas besoin, mais sauf qu'il y a des questions quand même.
Des questions, on est obligé. Hein.
Donc, si vous avez une calculatrice, autant l'utiliser aussi. Ce n'est pas interdit.
Ah non, on a le droit quand même.
On a le droit. Mais normalement, il ne devrait pas y en avoir. Enfin, si on a une ou deux. Ça devrait être le bout du monde, quoi. Et d'autant plus qu'en réglementation, comme ça dure qu'un quart d'heure, il y a intérêt à avoir la bonne formule tout de suite, hein. Mais en réglementation, les questions techniques sont assez simples. Donc normalement, il n'y a pas trop à sortir la calculette. Ou tout au moins, s'il y a à sortir la calculette, c'est une simple opération.
Une simple opération, d'accord.
Voilà le cas d'école.
Ah.
Alors ça me fait marrer parce que j'ai trouvé ça sur internet, mais par contre une résistance avec ces couleurs là, je connaissais pas. Noir, noir, marron, marron. Je ne connais pas. Et j'ai cherché un autre schéma en cherchant des vraies valeurs. Pas trouvé. Hein. Donc sur internet, ils appellent ça une résistance de 1 kΩ. Non, 1 kΩ, c'est pas comme ça que ça se...
Pas vraiment.
Ah, c'est plutôt marron, noir, rouge, en l'occurrence. Et là, c'est je sais pas quoi, mais c'est n'importe quoi. Donc, en supposant ici que ce soit ces 12 résistances-là, qu'elles soient de 1 kΩ, quelle est ici la résistance équivalente, donc mesurée entre ces deux, entre les deux pointes là de mon cube.
Tu l'as écrabouillé ton cube.
Ah bah écoute, ouais, un peu écrabouillé. Alors en fait là je vous ai dessiné, parce qu'en fait l'idée là c'est de redessiner à plat, puisque là on est en 3D quand même, hein, donc c'est un peu compliqué. Essayer de redessiner à quoi ça correspond. Quand on regarde, en fait, à chaque fois pour passer de X à Y, on est obligé de passer par trois résistances. C'est-à-dire une oui. Là, puis une là, puis une là.
D'accord.
Ou une là, puis une là, puis une là. Enfin, partout, on va utiliser toujours trois résistances. Et au départ, comme à l'arrivée, on va partir ici sur trois résistances.
Ah, d'accord.
Ici, trois résistances, ici, trois résistances. Ce qui veut dire que, d'un point de vue de ma loi des mailles, ici, ici et ici, je vais avoir la même tension.
Attends, je vais refaire.
Ici, au bout de chacune des résistances, elles ont la même valeur.
Ah oui, bien sûr.
Elles sont ici reliées systématiquement par une résistance au, enfin, à ce système-là qui lui-même est composé de, d'un réseau de trois résistances. Donc la tension ici, ici et ici va être la même. Comme la tension est la même, je vais pouvoir, enfin on a l'impression que les résistances elles sont reliées entre elles. Et elles sont reliées entre elles ici pour arriver à ces six résistances, puisque ici on a six résistances en fait, au milieu. Donc on a une ici, une ici, 2, 3, 4, 5, 6.
Et 6, d'accord.
Voilà mes 6. Et donc, ces 6-là, elles sont aussi en parallèle. Donc en fait, mon cube là, si je le redessine, ça va ressembler à ça. Parce qu'évidemment, un cube, si on prend ces résistances là dans tous les sens, on va pas comprendre, enfin on va complexifier le problème plus qu'autre chose. Hein, si on écrase le mes résistances là pour voir comment c'est foutu, eh ben on va pas y arriver. Et la seule manière, c'est de se dire que finalement j'ai la même tension ici, ici et ici, et ici, ici et ici. Et donc ici, ce sont c'est comme si j'avais ici, comme si derrière, tout était relié ensemble. Et donc après, une fois que j'ai ce système-là, c'est assez facile à calculer la résistance équivalente de mon circuit.
Il est à quelle page ton machin là ?
Il n'y est pas.
Non, encore bien. C'est bien machin.
C'est juste pour le cours.
C'est juste pour le cours.
Oui, oui, oui.
C'est juste pour te faire...
Regardez.
Ouais.
Par contre, d'ici, je suis incapable de voir les couleurs. Là.
Ah ben, on s'en fout, les couleurs.
On s'en fout, parce que de toute façon, c'est pas les bonnes.
C'est pas les bonnes. C'est pas les bonnes, pourquoi ? C'est que là, c'est noir-noir, marron-marron, et ça, je sais pas ce que c'est.
C'est pas dans le manuel.
C'est pas dans le manuel. Donc, on va supposer que c'est des résistances de 1 kΩ, et que c'est mal dessiné parce que ça serait marron, noir, rouge et or peut-être, je sais pas. Enfin, en tout cas, c'est bien mal dessiné. J'ai cherché un autre schéma avec des résistances mieux dessinées. J'en ai pas trouvé sur internet. Il faudrait que je recherche un peu plus longuement. En tout cas, celui qui a fait ce schéma-là, il a fait un beau schéma, mais... il a mal colorié ses résistances.
Donc, par contre, il a calculé comment alors ?
Alors, donc en supposant que ce sont toutes des résistances de 1 kΩ, ici j'ai un réseau. Attends. On va zoomer. Ici j'ai un réseau de 1 kΩ. Donc en parallèle, donc ici ça me fait 0,33.
Attends, parce que là. Je vois pas bien la branche à droite là. Après le premier réseau, la partie verticale là. Non, là, ça revient. Ça c'est tout est relié. Tout est relié.
Bah, en fait, c'est électriquement, c'est comme si tout était relié.
D'accord. Bon, parce que comme je
parce
vois
que
pas
ce n'est
point,
pas
je
ce
vois
n'est
pas,
pas
de point pour montrer la jonction.
Attends.
Moi je marche à l'ancienne.
Ouais, peut-être, mais moi je marche avec Word.
Même à la nouvelle, il faut mettre des points.
Oui, mais moi je fais que ça, je dessine ça sous Word. Alors vous allez m'excuser, mais je ne sais pas rajouter des points avec Word. C'est compliqué. Donc voilà, j'ai dessiné ça, et donc là tout est ici relié au même potentiel. Même chose ici de l'autre côté, tout est au même potentiel. Donc c'est comme si tout était relié. C'est comme si.
Comme si que. Donc là, il y en a deux.
Donc là, ici, en série, ça me donne 0,33. Même chose ici, d'ailleurs, 0,33. Et ici, ça me donne un sixième, donc un 666. Et donc là, la somme, donc
un
c'est pas
plus un tiers,
un tiers plus un sixième, ça donne 0,833.
D'accord. Okay. Même chose à votre bout, là.
Bah oui.
Alors, effectivement, dans le, tu peux revenir sur le voilà. Donc les trois résistances qu'on voit sur la gauche, là, du schéma. Que
ouais,
gauche,
ouais. C'est en fait, c'est les trois là.
Voilà, hein? C'est les trois.
C'est les trois qui sont reliés au Y là.
C'est ça. Donc c'est la pointe du.
La pointe du Y.
Du cube.
Voilà. Ouais, la pointe du cube. Okay. Et la pointe qui est à l'opposé, ouais. Même chose. Elle a trois résistances puisqu'il y a trois arêtes là.
D'accord. Oui, ça fait un peu comme un pont de Wheatstone à chaque fois. Finalement.
Oui, c'est un pont de Wheatstone, mais en trois dimensions.
En trois dimensions, d'accord.
Alors après, on peut s'amuser à calculer la tension ici en diagonale.
Et tu nous as dit donc combien, quelle est la valeur que tu as fixée là de...
Là, j'ai mis un kilo ohm parce que je savais pas quoi, je sais pas quoi mettre, puisque c'est encore une fois.
Si on commence normalement, il y en a trois en parallèle.
Ouais.
Ensuite, en série, il y en a six en parallèle.
Ouais.
Et rebelote.
V 3.
C'est quand on arrive de l'autre côté.
Ouais. Et quand on arrive au Y. Ouais.
Bon, bah ça c'est relativement simple à calculer tout ça maintenant que c'est simplifié.
Mais c'est pas une question d'examen, je vous rassure.
Ouais, non, mais c'est.
Mais ça c'est pour vous faire.
Pour le sport.
Ça c'est du remue-ménage, ça.
Mais j'ai encore...
Et on en arrive à la petite manip. Parce que, alors là, des questions comme ça. Dans le recueil de questions d'examen, il y en a 4-5 pages. Hein. Mmh. Mais ça tombe toujours autour du même truc. Hein. Mmh. Donc, on peut en retrouver... mais bon, l'idée, c'était pas trop de toutes les voir. C'est de voir, essayer de trouver la méthode. On en arrive à l'expérience de la soirée. Alors, je vais vous présenter... mon joli truc. Hop. Alors, hop. Alors déjà que je vous présente mon système là, que je vais avoir là, c'est un pont de Wheatstone avec des valeurs. Alors je les ai mesurées pour vous avant. Je vous refais pas le coup du code couleur des résistances parce que voilà, c'est toujours le même problème. Et là, ce que je vais essayer d'équilibrer, c'est ce pont de Wheatstone. Je passe sur la webcam. Et évidemment, après, avec les valeurs que je vous ai indiquées là, on va essayer de déterminer la valeur de la résistance. Puisque j'ai mis une résistance variable.
Bon, moi, je vais faire un petit tour d'or.
Hop. Zoup, c'est bon. Alors, hop, je pousse un petit peu tout ça. Je mets en route mon appareil de mesure. Hop, j'agrandis. Alors, c'est normal que ça indique rien parce que j'ai pas branché ma pile. Donc, tout va bien. Je branche ma pile. Et voilà, donc j'ai bien branché ma pile. Ici, donc j'ai mes deux réseaux. La première branche ici, la deuxième branche ici. Je prends mon stylo parce que c'est plus facile qu'avec le doigt. Donc mon premier réseau qui est ici. Et mon deuxième réseau qui est ici, avec sur mon deuxième réseau ma résistance variable. Alors qui est peut-être pas visible. Voilà, on la voit mieux, je sais pas.
Un petit peu quand même.
Un petit peu.
Ouais, là, c'est bien.
Voilà. Bon, je vais la reposer parce que sinon je vais pas réussir à montrer ce que je veux faire. Donc là, je fais varier ce que je vais faire. Je vais. Ici, j'ai une tension donc de 1,3 volts, on va dire. enfin négative, mais c'est peu importe. Je vais essayer de la ramener à zéro. Alors je ne sais même plus dans quel sens il faut tourner ça. Voilà. Je vais ramener à zéro ma tension. Il ne faut pas que j'aille trop loin non plus. Allez, hop. Allez. Voilà. Hop.
On est presque.
Ouais, c'est pas évident d'arriver.
Voilà.
Ouais, sur le truc. Là, je suis dans les millivolts, hein, donc ouais, c'est pas. Je suis toujours négatif, il faudrait que je passe de l'autre côté. Voilà. Un peu trop. Allez, allez. Ouais, je suis pas trop loin là. Allez, 5 millivolts, je suis quasiment équilibré. Ce qui veut dire que là, j'ai trouvé pour ma résistance équivalente l'équilibre. Alors, bon, ça décale un petit peu, mais bon, peu importe. C'est peut-être aussi ma résistance variable là qui n'est pas aussi extraordinaire que ça et que ça bouge un petit peu en fonction. Soit je tapote peut-être et ça bouge un petit peu. Enfin, c'est pas le top. On est bien d'accord. Bon, enfin bon, 15 millivolts. Ouais, on va essayer de remonter un tout petit peu. Bon, maintenant ça passe de l'autre côté. Voilà, maintenant c'est négatif comme tension. Voilà, c'est vraiment du pouillème. Donc là, j'ai équilibré mon pont. Et maintenant, bah, je vais essayer de mesurer ma résistance, voir si par rapport à ce que j'ai ici, hein, j'ai donc 10,3, ça je les ai mesurés à la maison, hein, 6,3, 1,8, 6,8, vous remarquez que le 10,3 c'est pas vraiment une valeur standard, c'est 10 kilo-ohms la valeur standard, mais voilà, j'ai pas, désolé, j'ai pas une... J'ai pas trouvé une 10 kilo-ohms tout court. Et donc maintenant, donc je débranche ma pile parce que si je veux mesurer ma résistance, j'ai intérêt, si je veux pas claquer mon voltmètre, mon multimètre, à retirer la pile. Sinon, ça va pas marcher. À la calculette, on va essayer de calculer la valeur. Donc là, je vais faire, pour calculer ma résistance, ici, c'est donc 10,3 multiplié par 1,8 divisé, ici, par 6,8. Je reviens sur ma webcam. Donc, on. Allez, on, s'il veut bien se mettre en on, voilà. Donc 10,3 multiplié par 1,8 divisé par 6,8. Je vérifie quand même que c'est bien ça que j'avais dit parce que je commence à douter. Ouais, 10,3, 1,8 et 6,8 divisé par 6,8. Exé. Et ça me donne donc 2,72. Donc normalement, si je mesure ma résistance, elle doit faire 2,72 ohms. Je me mets en calibre résistance. Et là, maintenant, je mesure entre mes deux pieds ici. Et je mesure quoi? 2,40 ohms. Qu'est-ce qui se passe? Que s'est-il passé? Eh bien, tout simplement, j'ai mal mesuré.
Ah oui.
Pourquoi j'ai mal mesuré?
Parce qu'il faut retirer les résistances qui sont en parallèle.
Faut retirer une des résistances. Et là, 2,75.
Ah, ben voilà.
Pour mes 2,72 que j'avais calculé, enfin 2,73, comme j'avais pas exactement 0 volt, ça explique pourquoi. Donc, qu'est-ce que j'ai fait là? Tout à l'heure, ce que j'avais mesuré, c'était la mesure entre ici et ici. Or, si je mesure entre ici et ici, on voit bien que j'ai non seulement la résistance ici que je mesure, mais j'ai aussi en série, enfin tout moins en parallèle, ce réseau ici en série.
Tout à fait.
Si bien que ça réduit la valeur.
Ah bah oui, tout à fait.
Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc pour pouvoir lire la valeur d'une résistance, il faut l'isoler du circuit.
Absolument.
Et la seule manière simple pour moi, tout simplement, c'est de couper ici, je débranche une des résistances, si bien que le réseau, du coup, est coupé. Donc le réseau est ouvert, et donc du coup, je ne mesure que cette résistance-là et pas les autres.
C'est vrai que c'était une erreur classique.
Et ça, c'est une erreur classique de mesurer la valeur de la résistance.
Ah, monsieur,
je comprends pas.
Quand elle est dans le circuit.
Ouais.
Ah, bah oui.
Et encore, il n'est pas alimenté.
Oui, oui. Oui, parce qu'en plus, quand c'est alimenté, en règle générale, ça fait cramer le...
Enfin, peut-être pas. Pas forcément, mais ça donne une valeur.
Mais ça donne n'importe quoi.
Surtout si le voltage est infini.
Oui, oui. La tension infinie comme tout à l'heure. Voilà, c'était la petite expérience du vendredi soir et sur ce, je vous souhaite un très bon week-end et à la semaine prochaine. Bye bye.